des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
Avant la prochaine entrevue que je vais faire, je me suis retourné dans ma bibliothèque pour retrouver un des premiers essais que j'ai lu à l'université qui s'appelait « Les 36 codes sensibles des Québécois » qui avait été écrit par un publicitaire qui s'appelle Jacques Bouchard. Jacques Bouchard, là, c'était celui qui a créé la première agence de publicité québécoise qui s'appelle BCP au Québec. C'était le père de la publicité. Il avait créé ce livre-là pour permettre justement à des annonceurs de comprendre mieux les Québécois. C'est devenu un livre culte. Et près de 40 ans plus tard, il y a un grand spécialiste du marketing au Québec qui s'appelle Jean-Marc Léger, qui a repris le flambeau. Ils ont publié un livre, ça fait quelques éditions qu'ils font, qui s'appelle « Le Code Québec ». Et la nouvelle édition vient de sortir, « Les 8 différences qui font de nous un peuple unique au monde », qui est évidemment écrit par Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel. Et il dresse un portrait du Québec d'aujourd'hui, évidemment, à l'aide des nouvelles technologies de pointe de recherche marketing. Alors, pour en parler, je reçois son auteur et aussi président du groupe Léger, Jean-Marc Léger. Salut Jean-Marc.
Bonjour.
Je me suis tapé le livre au cours des derniers soirs là, et j'ai appris avec incrédulité plusieurs paradoxes des Québécois. Plusieurs paradoxes là, qui m'ont frappé. Là, tu sais, pourquoi aimons-nous tant dépenser alors qu'on est passablement endetté? Pourquoi nous sommes si créatifs mais repliés sur nous-mêmes? Jean-Marc, est-ce que les Québécois sont conscients de leur propre paradoxe?
Non, ben pas vraiment. Parce que c'est ici qu'on a l'intention la plus forte, mais l'action la plus faible. Et ça, à tout égard, au niveau environnemental, au niveau religieux. Vous savez, au niveau religieux, on est les plus croyants, mais les moins pratiquants. même en affaires, on est ceux qui veulent le plus partir en entreprise, mais ceux qui hésitent le plus à le faire. À tout égard, là, on a comme un écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Par contre, le Québec bouge beaucoup. Vous savez, la première édition de Code Québec, on l'a écrite en 2016. On a écrit une réédition parce que depuis le temps, on a passé à travers plein de choses. La pandémie puis les difficultés économiques. Passé à travers la montée de la droite de Donald Trump, mais même de la CAQ ici au Québec. L'entrepreneuriat qui est une nouvelle tendance fondamentale. Il y a plein de changements climatiques. Il y a plein d'événements qui sont passés. Fait qu'on a mis ça à jour, mais en parlant aussi de la nouvelle clientèle. Pour les gens d'affaires, là, faire affaire avec les boomers, c'est bien, mais ils vieillissent et dépensent de moins en moins. Mm-hmm. La nouvelle génération des milléniaux est une cible extrêmement importante. C'est ça qu'on a des chapitres spécifiques pour mieux les comprendre.
Tu pourrais-tu expliquer aux auditeurs, là, c'est quoi la démarche de compilation de données qui permettent de dresser ce portrait-là des Québécois? Comment vous faites ça?
Bien, d'abord, c'est 35 ans que je cumule l'information. Vous avez parlé de Jacques Bouchard au tout début. Jacques Bouchard est un ami à moi. Mm. Jacques m'avait... On devait écrire ensemble la suite des 36 codes sensibles. Mais Jacques est décédé il y a quelques années, mm-hmm. et c'est là que j'ai dit, gars, moi, je pense qu'on va aller plus loin. Et je débute d'ailleurs le livre sur les 36 codes sensibles, où on les évalue, ces codes sensibles-là. Mm-hmm. Mais la technique qu'on a utilisée, c'est être capable de comprendre les valeurs des attitudes des gens au-delà de ce qu'ils disent. Fait que donc, ce qu'on a fait, le principe, c'est qu'on a testé 400 mots. On demande aux gens, est-ce que le mot économiser est positif ou pas? Est-ce que le mot entrepreneuriat est positif ou pas? Et à tout égard, c'est comme ça qu'on reconstruit le système des valeurs des Québécois. Et ça nous a donné 7 groupes de mots, 7 différences fondamentales entre le Québec et le reste du Canada, 3 qui sont plutôt positives. La joie de vivre, on la connaît la joie de vivre, mais on la mesure cette joie de vivre-là. La créativité québécoise et la fierté. Ça, c'est 3 facteurs qui nous différencient du reste du Canada. Il y a la partie négative aussi, beaucoup plus détachée. Les Québécois n'aiment pas prendre position. Sur tous les sujets, on parle beaucoup, là, mais on ne prend pas position. Même en sondage, on élimine la case milieu. On ne demande pas aux Québécois d'où plus, autant ou moins, parce qu'ils sont toujours autant. Alors que les Américains sont extrêmes, les Français sont extrêmes, nous, on est au milieu. On a aussi la notion de villageois. On n'est pas sorti du village. Hein. Même si ça fait 40 ans que tu es sorti de l'Abitibi et tu habites Montréal, tu vas dire d'où tu viens, l'Abitibi. Ça fait partie de nous autres. Quand tu habites au Saguenay, tu n'habites pas au Lac-Saint-Jean. Quand tu habites à Victoriaville, tu n'habites pas à Drummondville. Puis nous, le Québec, on a tendance à le voir comme étant des Montréalais. Alors que la moitié du Québec vit à l'extérieur de Montréal avec des attitudes, des comportements différents. Et le troisième facteur négatif, c'est la victimisation. Les Québécois sont des victimes, sont irresponsables. C'est jamais de leur faute. C'est la faute du gouvernement si l'économie va mal. C'est la faute des Anglais si on a de la difficulté dans le Canada. Ou c'est la faute du professeur d'école si mon enfant ne réussit pas à l'école. C'est jamais de notre faute. Hein. Et ça, c'est un trait fondamental. Et le dernier, celui de consensuel. Nous, il faut toujours qu'on s'entende.
Jean-Marc,
c'est que ces sept traits-là, on donne la saveur de l'identité québécoise.
Jean-Marc, dans les 36 cordes sensibles de Jacques Bouchard, y en a-tu une ou deux de ces cordes sensibles-là qui s'est maintenue au cours de depuis les 40 ans, puis qui était stable, puis qui n'a pas bougé, ou ils ont tous bougé ces cordes sensibles?
C'est-à-dire, sur les 36 cordes sensibles qu'on a mesurées, il y en a encore 18 qui existent. Je donne un exemple. La joie de vivre, on la connaît, mais la recherche du confort, c'est la plus forte, celle-là. Ou le talent artistique, la créativité. Ça, là, c'est un facteur qu'il faut comprendre. Puis pour les gens d'affaires, la créativité, là, c'est pas juste des artistes puis des Céline Dion puis tout ça, là. Non, non. Nous, on a réinventé le dépanneur avec Couche-Tard. On a réinventé la pharmacie avec Jean Coutu. On a réinventé la façon de faire des spectacles avec Mom and Factory. Vous voyez, la créativité québécoise, elle s'exprime beaucoup puis beaucoup dans l'entrepreneuriat. Fait que oui, sur la moitié des cordes sensibles de Jacques Bouchard qu'il avait identifié dans les années 70, existent encore aujourd'hui.
Jean-Marc, je vais me prêter un exercice avec toi. J'ai identifié 5 thèmes qui se retrouvent souvent dans l'actualité. Le journal, on écrit souvent sur ces mêmes thèmes-là. Puis voir comment ton Code Québec peut nous donner un éclairage sur ces thèmes-là. Alors, j'y vais. Le premier thème que je trouve intéressant, c'est le travail. Comment les Québécois voient le travail maintenant?
Ben, c'est sûr que, un, on est plus heureux au travail que dans le reste du Canada. C'est une des caractéristiques qui marque notre différence. Mais, vous savez, les Québécois sont moins travaillants. Statistiquement parlant, là, le nombre d'heures travaillées par un Québécois est 36 heures par semaine. L'Ontario, c'est 36 en moyenne. Ça n'a pas l'air beaucoup, là, mais une heure de plus en moyenne fois 8 millions de personnes, c'est beaucoup. Et aux États-Unis, c'est 39 heures en moyenne. Fait qu'on aime beaucoup le travail, mais on n'est pas nécessairement les plus travaillants. Mais il y a un aspect du Code Québec que je vois ici. Cette notion-là de créativité, cette notion-là où on veut toujours se dépasser, c'est au Québec que les gens trouvent leur patron le plus incompétent. Tu sais, cette notion-là de rebelle québécois, là, ici, 30% des Québécois trouvent son patron incompétent. On pense toujours qu'on est meilleur que le boss. C'est le double du reste du Canada, qui a un respect beaucoup plus fort pour la hiérarchie. Nous, au Québec, on n'aime pas la hiérarchie. D'ailleurs, les plus grands succès au Québec viennent pas comme du Canada anglais. Vous savez, un Loblaws, un Canadian Tire, c'est des entreprises top-down. Le boss décide, le monde exécute. Au Québec, les plus grandes entreprises sont des regroupements. C'est un bottom-up. C'est Desjardins, c'est Solio, c'est Agropur, c'est Rona, même si elle était vendue. Nous, là, ça vient d'en bas parce que les gens sont plus critiqueux, mais sont solidaires pour prendre le pouvoir. C'est ça la force de l'économie du Québec.
Un autre thème que je pense qu'on discute souvent, c'est le rapport que les Québécois ont à l'argent. Est-ce que l'argent est devenu moins tabou qu'au cours des dernières années?
Ah, ça, c'est ma préférée, celle-là. L'argent n'est plus péché.
Je le savais.
Oui, puis ça, c'est quelque chose de fondamental parce que tu ne peux pas te lancer en affaires si tu n'as pas le goût de faire de l'argent. Puis au Québec, l'argent, pendant longtemps, c'est péché. Ça vient de notre vieux fonds catholique, là, versus un protestant, l'argent, c'est le succès. Nous, c'est péché. Je vous donne une statistique. Quand le Baby Boomers avait 20 ans, un sondage à l'époque avait posé la question, est-ce que l'argent est important dans votre vie? 45% ont dit oui. Chez les X, quand ils avaient 20 ans, pas aujourd'hui, mais quand ils avaient 20 ans, ça montait à 55%. Chez les milléniaux, aujourd'hui, sondage que j'ai réalisé, 75% des milléniaux disent que l'argent est important. Et plus, la moitié d'entre eux disent que l'argent fait le bonheur. On a une dynamique qui a changé, mais derrière l'argent, il y a une différence fondamentale, Yves, entre le Québec et le reste du Canada. Pour un anglophone, c'est jouissif de voir son compte de banque augmenter. Un Québécois, c'est pas ça. L'argent, c'est pas une raison, c'est un moyen. Ce que le Québécois veut, c'est qu'est-ce qu'il peut faire avec l'argent. Vivre des expériences, aller en voyage, dépenser. Et nous autres, là, c'est pas d'accumuler une richesse qui est important, c'est beaucoup plus de ce que l'argent nous permet de réaliser. Fait que oui, on aime beaucoup plus l'argent, mais pas pour les mêmes raisons.
Dernière question ou dernier thème, là, c'est un sujet que j'ai à cœur, là, c'est le français en affaires. Notre rapport à la langue française dans le monde des affaires. Actuellement, toutes les compagnies, les jeunes pousses là, qu'on appelle les startups, ont tous des noms en anglais. On est prêt à se faire servir en anglais, puis ça, les jeunes milléniaux, ça leur pose pas de problème. C'est quoi ce rapport-là que les Québécois ont maintenant avec le français en affaires?
Il y a vraiment une différence entre tous les gens de plus de 45 ans et les moins de 45 ans sur cette question-là. Là. C'est vraiment très dichotomique. Comme sur la majorité des questions, là, dis-moi l'âge que tu es, je vais te dire ce que tu penses. Hein. Parce qu'un jeune qui est à Montréal a les mêmes valeurs, achète les mêmes produits, écoute la même musique, regarde les mêmes films sur Netflix à Montréal qu'à Toronto, qu'à New York, qu'à Paris. Hein. Fait que c'est les valeurs se mondialisent. Mais la génération des boomers qui s'est battue pour la langue, pour eux, c'est fondamental. Pour les jeunes, c'est un débat qui est acquis. Pour eux, la langue française est protégée, les lois sont là, et ils vont pas dans la rue manifester pour la langue, ils vont manifester pour l'environnement, ils vont manifester pour les inégalités sociales, pas pour la langue. Fait que les gens prennent pour acquis ça. Et l'autre facteur, c'est qu'un des éléments qui motive le plus la génération, c'est l'ouverture sur le monde. Donc, apprendre une nouvelle langue, c'est fondamental pour eux, puis ils ont raison là-dessus. Apprendre une nouvelle langue, mais ils sont beaucoup plus inclusifs que le reste du Canada. Le discours, par exemple, de Justin Trudeau sur le multiculturalisme performe chez les jeunes, alors que les personnes plus âgées au Québec haïssent ce type de discours-là. Le monde, le Québec a changé, et le plus fondamental, c'est que le pouvoir a aussi changé. Mm-hmm. Le règne des baby-boomers est terminé. Les milléniaux imposent leurs valeurs. Ils sont plus nombreux en nombre maintenant, plus éduqués et bientôt plus riches. Parce qu'ils ont de l'argent et il y aura un transfert monétaire des baby-boomers vers leurs enfants, qui sont les milléniaux, au cours des prochaines années. Cette génération-là impose ses valeurs. Fait que quand on parle des milléniaux, on ne parle pas juste d'une génération, on parle du Québec de demain.
Bon, ben, j'invite vraiment nos auditeurs à acheter le livre Code Québec, les 8 différences qui font de nous un peuple unique au monde. En fait, ils pourraient acheter le livre puis le partager avec leurs enfants pour connaître vraiment le portrait du Québec d'aujourd'hui. Merci Jean-Marc Léger. Jean-Marc Léger qui est auteur donc du livre Code Québec et aussi président du groupe Léger. Merci Jean-Marc.
Ben, merci Yves.
Au plaisir.